والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ الإسلام, nous remercions الله عز وجل qui nous a donné la iman, la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés par la plus belle des religions. C'est la plus belle des religions qui permet à chaque être humain, à chaque musulman, de parfaire ses relations avec son créateur. C'est ce qu'on appelle le ibad, le umur ta'abudi, les relations de culte entre le serviteur, le musulman, et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dîn est kamil, il est complet parce qu'il permet également à chaque musulman de régir, de parfaire ses relations avec ses proches et avec son prochain d'une manière générale. Et ce deuxième point est beaucoup plus complexe de nos jours. N'importe quel musulman, alhamdoulilah, a compris la nécessité de faire ses salats, de faire son ramadan, de lire le Coran, le dhikrullah, c'est-à-dire les umur ta'abudi, tout ce qui a trait au culte, à l'adoration d'Allah. Ça, il n'y a pas de divergence. Tout le monde est d'accord qu'on doit faire des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, lorsqu'on parle des relations entre les gens, qu'on appelle le mu'amala ou les akhlaq, alors là, il y a deux catégories de personnes. Il y a deux excès. Il y a une catégorie de personnes qui veut parfois tellement bien faire que dans leur relation avec les gens, ben en fait, ils s'occupent plus des gens que d'eux-mêmes. Ils vont essayer de comprendre qu'est-ce que telle personne est en train de faire. Ils vont, comme on dit dans le langage courant, le panchat, ou alors peut-être en comorien, maori, il y a d'autres termes également, c'est-à-dire les personnes qui veulent tout savoir sur la vie de son prochain. Ça, c'est un extrême. Ça, c'est un extrême, et dans cet extrême-là, on va retrouver des péchés tels que le riba, le bohtan, le namima, le qila wa qal, c'est-à-dire la médisance, la calomnie, le fait de colporter de fausses rumeurs, de fausses paroles, dans le but de semer la zizanie. Cet extrême-là, on a tous compris que ça, c'est haram. Il n'y a rien à dire là-dessus. Quelqu'un qui passe son temps à observer comment une telle personne vit, quel est son mode de vie, quels sont ses revenus, qu'est-ce qu'il a comme relation avec les gens, pour broder, pour parler, pour discuter, ça, il n'y a rien à dire dessus. C'est quelque chose qui est haram. Cet excès-là est interdit. Là où peut-être qu'on n'a pas entière connaissance de ça, c'est que l'autre excès également, c'est une personne qui se dit que moi, je ne m'occupe de personne. Je vis ma vie, je travaille, je fais ma salat, mon boulot, ma voiture et tout, boulot, métro, etc., de dos, et rien d'autre. Je ne m'occupe pas de mon prochain, je ne fais du tort à personne. Quand on entend parler de ce cas de figure, parfois, on peut se dire que ça, c'est une bonne réaction. Lui, au moins, il ne occupe pas de monde. Lui, au moins, il ne sait pas cause. Celui de monde, il ne occupe pas la vie des gens. On peut se dire parfois que cette personne a agi correctement. Mais non, c'est également un péché. C'est également une erreur de la part de la personne que de se dire que je fais l'adoration d'Allah, je m'occupe de mes affaires et tout ce qui concerne la communauté, mes frères, mes sœurs en islam, ça ne m'intéresse pas, je ne m'en préoccupe pas. Ça aussi, c'est une erreur qui grossit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des versets les plus, qui nous interpelle le plus, c'est lorsque l'on atteint le Coran, « Innamal mu'minuna ikhwa ». Alors si j'accepte le fait qu'Allah Azza wa Jal dise le Coran que les musulmans sont frères entre eux, et qu'en même temps je me dis qu'il peut lui arriver n'importe quoi, il peut être dans des difficultés, quelle que soit sa situation, je ne m'en préoccupe pas, parce que moi je ne m'occupe pas des autres. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la définition de innamal mu'minuna ikhwa, et on ne l'a pas accepté même. Donc deux extrêmes, il y en a ceux qui s'occupent trop, ça c'est pas bien, et ceux qui s'isolent des gens également. Ceux qui ne se préoccupent pas, ceux qui ne se... Alors, le terme n'est pas correct. Ceux qui ne se font pas du souci pour son prochain. Celui dont le cœur n'est pas blessé quand il voit son frère dans la difficulté. Celui qui voit... celui dont le cœur n'est pas rempli de joie quand son prochain obtient quelque chose de gratifiant qui lui fait plaisir. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le sens réel de innamal mu'minuna, innamal mu'minuna ikhwa. Et il y a un hadith qui est peut-être pas très connu, lorsque le prophète alayhi salat wa salam dit à Anas bin Malik radiallahu anhu, dit que unsur akhaka zaliman aw mazluma. Ce hadith peut paraître un petit peu étrange. Le prophète alayhi salat wa salam dit que chaque musulman, il est du devoir du musulman d'aider son prochain. Là-dessus, on est d'accord. Mais là où ça bloque un petit peu, zaliman aw mazluman, qu'il soit opprimé, ça on a compris, quand quelqu'un est opprimé, on l'aide. Aw zaliman, même s'il est oppresseur, on doit l'aider. Alors là, on ne comprend plus. Là. Le prophète dit à Anas bin Malik que si ton frère musulman est opprimé, tu dois l'aider. On comprend. Si ton frère musulman est oppresseur, il fait zulm sur quelqu'un, tu dois quand même l'aider. Alors, les Sahaba, radiallahu anhum ajma'in, c'était avant tout des gens qui voulaient comprendre leur religion. Ce n'était pas une pratique aveugle. Et ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, ansuruhu idha kana madhlouma. Dit au prophète d'Allah, je vais l'aider s'il est opprimé. Ça, il n'y a pas de doute. Afara'ayta idha kana zaliman kayfa ansuru. Au prophète d'Allah, si mon prochain est en train de faire une erreur, il est en train de faire une bêtise, il est en train d'opprimer quelqu'un, je vais l'aider dans son mal. Et là, le prophète sallam fait comprendre aux sahaba, dit que non. Tahjizuhu ou tamna'uhu min al-zulmi, fa inna dhalika nasruhu. Le prophète dit non. Quand je disais aider votre prochain, même s'il est oppresseur, ça veut dire que si vous voyez votre frère musulman dans l'erreur, en train de faire du tort à son prochain, aidez-le. Et l'aider, c'est quoi? C'est le faire comprendre qu'il est dans l'erreur et de le tirer de ce zulm. D'enlever l'oppresseur de cette situation, lui faire comprendre que tu n'as pas le droit d'agir de la sorte avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes voisins, avec tes amis, avec les gens de la communauté. De la sorte, tu es en train de l'aider d'une manière ou une autre, tu es en train de l'aider. Et là, les ulama, rahimahoullah, disent que ça nous fait comprendre que on ne peut pas rester impassible face aux réactions des autres. Quand quelqu'un est dans la difficulté, il est de notre devoir de l'aider. Ça renforce ce que le prophète alayhi salatu wasallam dit, al muslimun kal bunyan al wahid yashuddu ba'dahu ba'dan. Le prophète avait joint ses deux mains et il avait dit que les musulmans sont comme ça. Il y a un qui supporte l'autre, il y a un qui est le soutien de son prochain. Ça, c'est un sens qu'on maîtrise. Mais lorsque les ulama disent que là où beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que si on voit quelqu'un en train de faire du mal, comprenez qu'il fait du mal aux gens, mais il se fait du mal à lui-même. Parce qu'en faisant du tort aux gens, on a la malédiction des gens, on a la colère d'Allah et il s'attire des péchés. Et il est de mon devoir, moi musulman, de faire en sorte que ce mu'min qui est dans l'erreur, il quitte cette erreur. Et ça fait partie du « an-nahyu anil munkar ». Le fait d'interdire le blâmable. Le Prophète dit que man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Si vous voyez quelqu'un en train de faire quelque chose de mal, essayez de l'en empêcher avec vos mains si vous pouvez. Fa illam yastati' fa bilisani. Et si on peut pas, c'est avec la bouche. On essaie de lui donner un conseil, lui faire comprendre que ça, c'est un acte qui est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'au moment où tu es en train de faire cette action, on voit un camarade ou des jeunes, un samedi soir, nous on sort salat al-isha. Nous on voit, ils ont déjà mis le t-shirt qui est bien, machin, bien cintré, le jean taille basse, et ils ont mis les cheveux, la fashion, tout ça. On sait où est-ce qu'ils vont. Je n'ai pas le droit de regarder ces jeunes entrer en voiture et aller. Si je ne dis rien, je suis responsable. Je suis pas responsable de l'acte, mais responsable auprès d'Allah du fait que je connaissais. Ils avaient fait quelque chose de haram et je n'ai pas fait mon devoir de musulman de rectifier, d'interdire le blâmable. Même s'il ne vous écoute pas, le fait de dire une fois que ayez la crainte d'Allah de ce que vous faites, n'oubliez pas que Allah Azza wa Jal est au-dessus de nous. Allah nous observe nos faits, nos gestes, nos actes. Il y a des anges qui écrivent chaque pas que le musulman va faire et ils l'écrivent dans les livrets de compte. Est-ce que c'était un pas qui a été fait vers le droit chemin ou vers le mauvais chemin? Ça, c'est le devoir du mu'min. Ça, c'est le sens profond de kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et dans un sens, ça prouve que nous sommes frères. Si vous voyez un de vos frères, un vrai frère, le frère de sang, il est en train de se mettre dans des situations pas possibles. Hein, par exemple, vous voyez un frère, je dis un exemple, hein, il est en train de faire un contrat ou alors il va monter une entreprise avec quelqu'un. Vous savez, c'est un grand voleur. C'est une personne qui vole, qui détourne l'argent, bref, qui a déjà escroqué beaucoup de gens. C'est votre propre frère. Vous allez lui dire attention, vous allez lui mettre en garde, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous voyez votre frère qui est en train de, je ne sais pas moi, qui va voir un médecin, qui a une mauvaise réputation, qui va se faire opérer par quelqu'un qui fait beaucoup de bêtises. Vous allez lui dire attention, bref, il n'y a ni que quand on a un frère de sang, on sait que c'est de mon devoir de l'aider et de le guider s'il est dans le mauvais chemin dans les deux sens du terme. Dans le dîme, c'est pareil. Nous ne sommes peut-être pas tous frères de sang, mais nous sommes frères de iman. Quand un de mes frères est dans le mauvais chemin, il est de mon devoir de lui donner le message afin qu'il retourne dans le droit chemin. Parce que j'ai une responsabilité par rapport à cette personne. Donc les ulama disent également, si dans la communauté, nous connaissons qu'il y a un mari, par exemple un monsieur qui agit mal avec son épouse, on entend qu'il frappe sa femme ou il insulte, ou les relations sont mauvaises, et que s'il continue dans cette voie-là, c'est un couple qui ne tiendra pas. Moi, musulman, j'ai deux possibilités. Soit je me dis que c'est son problème, il ne rentre pas dans les affaires de monde, ou alors je prends ma responsabilité avec hikmah, avec sagesse, je lui fais passer le message quel doit être le comportement d'un musulman, d'un mari envers son épouse. Ça peut être par le fait de lui donner un livre qui explique le comportement. Il y a beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités pour faire passer un message. On n'est pas obligé d'interpeller quelqu'un, de le secouer, de lui dire non. Ça, c'est contraire également à l'habitude. Par exemple, au-delà de la sabil de Rabbika bil hikma, la première méthode, c'est d'inviter vers le dîn d'Allah, vers le chemin d'Allah, par la sagesse. Ça, c'est un autre sujet. Mais qu'on comprenne qu'on a une responsabilité face à notre prochain. On ne doit pas laisser notre prochain dans l'erreur. Maintenant, notre hadith qui nous explique comment les musulmans doivent se sentir frères entre eux réellement. Dans un autre programme en ville, on expliquait la dernière fois que parmi les signes qui vont précéder la venue de Dajjal, c'est viendra une époque où les musulmans n'auront plus de relations côtoies entre eux, plus de relations fraternelles entre eux. Il dit que, Allah Musta'an, de nos jours, nous constatons ça. Le commerçant musulman, il est prêt à casser son prochain. Quelles que soient les professions, quelle que soit la nature de notre travail, il n'y a plus cette muhabba. Il n'y a plus le ta'amoun, il n'y a plus l'entraide, la fraternité, la solidarité. Au contraire, quand on peut faire chuter notre prochain, on y va à cœur joie. Si on voit qu'une personne vend, allez, un exemple, la même chose que nous, malheureusement, de nos jours, on n'a plus cette conviction que c'est Allah qui est raziq. C'est Allah qui donne la subsistance. Mon rizq, elle était écrite depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Allah Azza wa Jalla a déjà écrit telle personne, il va manger tel quota de rizq, de subsistance, ni un de plus, ni un de moins. Donc c'est pas que c'est lui, il fait le même travail, je vais perdre de l'argent, non. Malheureusement, le musulman, il a oublié ça. Il a oublié comment les musulmans, ils ont eu le izzah. Comment ils ont eu l'honneur. C'était lorsqu'ils sont arrivés à Madina, à Munawwara, le prophète a décrété que chaque muhajir et chaque ansar sont des frères. Chaque habitant de la Mecque et chaque habitant de Médine sont des frères et ils habitaient ensemble dans les mêmes maisons, ils travaillaient ensemble, ils partageaient leurs biens de la sorte que les pauvres qui venaient d'arriver, eux aussi, ils pouvaient faire leur chemin jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. Et c'est grâce à cette relation fraternelle et étroite que le prophète a instauré qu'Allah Azza wa Jal a envoyé sa nusra. Parce que l'aide d'Allah vient toujours quand il y a la muhabba, lorsqu'il y a de l'entente de la umma. À partir du moment où il y a fracture, où il y a divergence, où il y a scission, ça c'est amal shaytan. Le travail de shaytan, c'est quoi? C'est de semer la zizanie. Peu importe, shaytan il frappe large. Il peut semer la zizanie entre un monsieur et son épouse, il le fait. Il peut semer la zizanie entre un papa et son fils, il le fait. En deux frères, il le fait. Entre un tonton et son neveu, il le fait, etc., etc. En deux voisins, il y va à cœur joie. Avec quelle arme principale shaytan utilise? Su'uban. Le prophète m'a dit, attention, mauvaise pensée, ça c'est le pire des mensonges. Shaitan, il vient, il met dans la tête d'un tel, tel monde-là, il pense comme ça de moi, il me regarde de travers. Yani, il vous fait faire des films. Le but de Shaitan, c'est d'élever les cœurs les uns contre les autres. Et quand les cœurs sont élevés les uns contre les autres, il n'y a plus d'aide d'Allah Azza wa Jal. Quand les cœurs sont opposés, Allah n'envoie plus son aide et sa nusra. D'ailleurs, pour ça, le prophète m'a dit que man udhilla indahu mu'min, celui qui voit un musulman humilié auprès de lui, injustement, falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala an yansurahu, et qu'il reste impassible, il regarde son prochain être humilié par d'autres personnes et il ne fait rien pour l'aider alors qu'il peut le faire. Il a un tel statut de la société ou peu importe qui fait qu'il peut tendre la main à son prochain. Il peut faire en sorte de limiter cette humiliation, de lui venir en aide. Mais il ne le fait pas. Il n'a pas envie de le faire. Il ne se sent pas solidaire de son prochain. Alors quelle sera la punition? Le prophète dit que أَذَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le jour de la résurrection, Allah Ta'ala va humilier cette personne devant toute la création. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu en aide à son prochain alors qu'il pouvait aisément le faire. Et les ulama commentaires disent que regardez quelle est la punition pour celui qui n'aide pas son prochain dans la difficulté alors qu'il peut le faire. Maintenant, que dire de celui qui va humilier son frère musulman? Là on dit celui qui n'aide pas son frère musulman qui est humilié. Maintenant, que dire du musulman qui va essayer de casser, de frapper dans l'honneur de l'izzat du musulman? Il va faire en sorte que cette personne soit humiliée à travers sa personne, à travers sa famille, à travers ses enfants, aux yeux de la communauté. Ça, c'est un péché, c'est inexplicable ça. Quelle sera la punition de cette personne le jour de la résurrection? Et pour conclure, un hadith que tout le monde connaît, hadith magnifique, qui explique comment doivent être les relations entre les musulmans. Vous allez dire que ça c'est idyllique, ça c'est un rêve, mais à l'époque des sahaba, c'était comme ça. Et c'est grâce à ça qu'ils ont eu la nusra d'Allah Azza wa Jalla. Ça me dit que al-muslimu akhul muslim, le musulman est le frère de son prochain. La yakhunuhu wa la yakdibuhu. Ça me dit en ce sens que un musulman ne peut pas tromper son prochain. Ça, c'est impossible. Si on est musulman, on ne trompe pas son prochain. Voilà, on ne ment pas avec son prochain. Et la suite du hadith, c'est un peu long. On va aller droit à l'essentiel, le hadith est long. Elle dit, c'est déjà un péché que le fait de se moquer ou d'humilier son prochain. Le prophète dit que c'est un péché si un musulman humilie son prochain aux yeux de la communauté, aux yeux des gens. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Les musulmans sont entre eux comme une construction. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Chacun soutient son prochain. C'est comme quand on monte un mur avec des briques. On commence par le bas et puis le haut. Si en bas, yani on a loupé une brique, ben la construction ne sera pas stable. C'est-à-dire que ce sont les briques d'en bas qui soutiennent la rangée d'en haut, qui soutiendra la troisième, la quatrième, cinquième. Cette métaphore, le prophète l'utilise pour montrer comment les musulmans se doivent d'être solidaires. Inna ahadakum, on terminera avec ça, mir'atu akhihi fa in ra'a bihi adha falyumithu anhu. Ça, c'est une parole magnifique, ça. Ça, il faudrait, subhanallah, des heures pour expliquer ça. Le prophète dit que le musulman est un miroir pour son prochain. Les ulama, rahimahoullah, expliquent qu'il y a deux choses dedans. Un, veut dire que qu'est-ce que ça veut dire que le musulman est un miroir pour son prochain? Si nous voyons un défaut chez un musulman, il est de mon devoir de le corriger avec sagesse, mais d'essayer de le faire comprendre quelle erreur il fait. Par exemple, un exemple tout bête. On voit une personne qui met son pantalon au-dessous de la cheville. Un exemple. D'accord? Il est de mon devoir, moi, musulman, de lui rappeler que le prophète m'a dit que tout ce qui descend, au-dessous de la cheville, fahuwa finnar. Et sera de le feu de l'enfer. Ça, c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Mise en garde sévère contre ce qu'on appelle Al-Isbal. Pour montrer qu'on n'exagère pas là-dessus. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, petite parenthèse, il agonisait. Quand Omar a été poignardé, il allait mourir. Il agonisait, il perdait son sang et les gens venaient le rendre visite parce que c'était le Amir al-Mu'minin. Les gens venaient le faire, Moulaka, le dernier salam. Et alors qu'un jeune homme était venu le voir, Omar a accepté ce salam et écouté ses doigts. Il est parti et Omar le regarde de loin. Il a dit aux sahaba, ramenez ce jeune homme, rappelez-lui, rappelez cette personne. Il a rappelé cette personne, il a donné conseil concernant son pantalon qui descendait, quel que soit un pantalon, un izar, ça peut être comme on dit un longuil, les tissus qu'on met, bref, ça descendait au-dessous de la cheville. Et Omar ibn al-Khattab, dans les derniers moments de sa vie, il lui a fait le rappel. On revient au sujet, si on voit une erreur ou un défaut chez notre prochain, il est de mon devoir, moi musulman, de lui faire le rappel avec sagesse. Et deuxième chose que les ulama disent, que en observant parfois, regardez bien, faites l'expérience, quand nous voyons quelque chose qui nous déplaît chez notre prochain, c'est que très souvent, il y a la même chose en nous. Par exemple, quand on regarde une personne qui a fait une image comme un intéressant, comme un cagnant, comme un tapeur, mais ça m'agace, mais si je réfléchis bien, ben je le fais aussi parfois. Et ça, c'est même psychologiquement, c'est comme ça. Les psychologues disent que nous n'aimons pas les défauts qui se trouvent en nous. C'est parce qu'on les a qu'on déteste de voir cette chose chez les autres. Bref, c'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui m'agace chez quelqu'un, la première question que je dois me poser, c'est que est-ce que moi-même je ne développe pas ce même péché? Si nous voyons quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas salam aux gens, qui passe droit, qui ne fait pas salam et tout, et dit ouais, lui il est hautain, il est orgueilleux, il ne fait pas salam aux gens, je dois me poser la question en premier, est-ce que moi-même, il n'y a pas des fois où je développe ce péché? C'est ça également le sens que le musulman est un miroir pour son prochain. Je dois, en voyant ses défauts, je dois essayer de me reconnaître. Est-ce qu'il y a ça en moi? S'il y a ça en moi, je me corrige. Et après, je vais vers lui, j'essaie de lui donner les bons conseils. Et les ulama disent également que ce hadith nous prouve qu'on ne doit pas s'éloigner des gens qui font des péchés. Ce n'est pas parce qu'on connaît que quelqu'un il ment, ou quelqu'un il parle beaucoup sur les gens, ou quelqu'un il fait tel péché, même si je connais que mon frère il boit de l'alcool. Un exemple extrême. Je sais qu'il y a des moments où il boit chez lui, il consomme de l'alcool. Ce n'est pas parce qu'il fait un péché que je vais fuir la personne. Non, parce que si tous les pratiquants fuyaient les pécheurs, qui donnerait des conseils aux pécheurs? Si tous les gens qui pratiquent, s'il voit quelqu'un qui fait un péché, il s'éloigne, dit, ah, lui il fait tel péché, mais il marche pas du tout. Mais à quel moment cette personne-là aurait une chance de fréquenter quelqu'un qui lui donnerait un conseil qui lui serait profitable? Donc, le fait que le prophète dit que chaque musulman est un miroir pour son prochain, ça veut dire également que même s'il fait des péchés, on le fréquente, mais on va essayer de lui faire profiter, on ne dirait pas de nos qualités, mais on va essayer de corriger ses erreurs avec sagesse, et de deux, on va essayer de lui montrer quel est le bon comportement du musulman afin qu'il puisse profiter de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé comme bienfait. Et terminera avec ça. Le prophète dit à Abu Huraira an, trois conseils, trois choses. Celui qui manaffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, celui qui vient en aide à un musulman dans une des difficultés de ce monde, Allah Azza wa Jal lui viendra en aide dans une des difficultés de l'au-delà. Et quand on parle des difficultés de l'au-delà, c'est pas un petit problème comme quelqu'un, il lui manque 20 euros pour compléter le mois, ou il peut pas faire ses courses, ou on a besoin, je sais pas, un petit service. Non, difficultés de l'au-delà, c'est le jour de la résurrection. C'est des étapes cruciales, ça. C'est des étapes qui vont déboucher sur l'accès au paradis ou l'enfer. On aide notre prochain dans ce dunya, Allah promet qu'il nous aidera à tel moment pour telle aide qu'on a apportée à notre frère en 1980, en 1990, je sais pas quoi. On lui a aidé dans une difficulté, et Allah Ta'ala viendra en aide à cette personne dans les difficultés de l'au-delà. Deuxième chose, ça m'a dit que celui qui facilite à une personne qui est endettée, Allah Azza wa Jal lui facilitera également le jour de la résurrection. Et troisième point, et ça c'est important, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Si vous savez que votre prochain il fait un péché, on a dit qu'on va essayer de l'aider, mais ne jamais dévoiler son erreur. Il ne faut pas qu'on se voit entre camarades du Tibou. Voilà. M'a vu Ali, il était dans le bois côté leader Price. Hein? Non, il avait un dodo, je ne sais pas, un phénix dans la main. M'a vu, il est sûr. Non. Moi, mon devoir, c'est quoi? C'est essayer de l'aider, qu'il s'en sorte. Mais jamais divulguer le péché de notre prochain. Ça, c'est haram, ça. Le prophète dit que celui qui cache les défauts de son frère musulman, Allah Azza wa Jal cachera ses défauts dans ce monde et dans l'au-delà. Parce que vous savez que dans l'au-delà, les comptes sont publics. Lorsqu'une personne va auprès d'Allah, tout le monde va savoir quelles étaient ses erreurs. Mais celui qui cachait les défauts de son prochain dans ce dunya, Allah Ta'ala cachera également ses péchés le jour du Qiyam. Mes chers frères, qu'Allah nous accepte d'un temps fait de comprendre ces quelques paroles, nous fasse comprendre vraiment quelle est la relation fraternelle qui doit exister entre chaque frère musulman, chaque mu'min, même si nous ne sommes pas de la même origine, nous n'habitons peut-être même pas les mêmes villes, les mêmes pays, mais les mu'mines, les musulmans sont frères. À partir du moment où notre prochain est là, ilaha illallah, c'est mon frère en Allah. Et c'est pas pour rien si le prophète m'a dit que le jour de la résurrection, cette catégorie de personnes seront appelées sous l'ombre du trône d'Allah, hadith très connu. Et parmi ces sept catégories de personnes qui seront les élus d'Allah le jour de la résurrection, les gens qui s'aimaient pour Allah uniquement parce que l'autre avait la ilaha illallah dans son cœur, pas par intérêt, pas parce que lui il va m'aider, lui il est riche, lui il a telle position, non, s'aimer pour Allah par muhabba sincère, ça c'est quelque chose qui est aimé par Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah remplisse nos cœurs d'amour, d'affection, de fraternité pour notre prochain, qu'Allah illumine nos cœurs et qu'Allah nous rapproche de lui. Jazakum Allah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.